L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous.
À travers le monde entier, l'Église orthodoxe est constituée d'églises locales, patriarcales et autocéphales qui élisent leur propre primat, ou autonomes qui doivent recevoir la confirmation de la part d'une église patriarcale pour l'élection du primat. Toutes ces églises s'assurent d'une reconnaissance et d'une communion mutuelle, partageant la même ecclésiologie, confessant la même foi et appliquant le même droit canon. Les églises patriarcales et autocéphales peuvent coïncider soit avec des communautés de civilisation qui furent ou redeviennent missionnaires, soit avec des communautés nationales. Les églises patriarcales sont les quatre patriarcats anciens, de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, dont le siège se trouve à Damas, et de Jérusalem, et les patriarcats de constitution plus récente, de Russie, de Serbie, de Roumanie, de Bulgarie et de Géorgie. Parmi les églises autocéphales figurent les églises de Chypre, Grèce, Pologne, Albanie et République tchèque et Slovaquie. À la suite des grandes migrations du XXe siècle, sous la pression de la guerre et de la persécution, des révolutions communistes, de l'effondrement de la Grèce d'Asie mineure, des drames palestiniens et libanais, de la situation économique difficile dans les pays de l'Est après la chute du rideau de fer, l'orthodoxie est aujourd'hui présente sur tous les continents, notamment en Europe occidentale. De plus, les patriarcats de Roumanie et de Bulgarie, les églises orthodoxes autocéphales de Chypre, Pologne et République tchèque et Slovaquie se trouvent actuellement à côté de celles de la Grèce dans la communauté européenne suite à son récent élargissement. En ce deuxième dimanche après la Pentecôte, chaque église orthodoxe locale célèbre les saints issus de son propre peuple fidèle. Aujourd'hui, quand les chrétiens orthodoxes pensent aux saints de leur pays d'origine, nous devons nous rappeler aussi de nombreux saints qui ont vécu sur la terre de France au premier millénaire, qui sont célébrés et parfois redécouverts par l'Église orthodoxe. C'est pour cela que nous allons consacrer cette émission à l'Église orthodoxe en France et à ses saints locaux, en dialogue avec le père archimandrite Siméon. D'origine française, le père Siméon est le fondateur et l'abbé du monastère Saint-Silouane, situé près du Mans. Nous lui avons d'abord demandé quelle est l'importance de la célébration des saints locaux dans l'Église orthodoxe.
C'est très important qu'il y ait des saints locaux, parce que nous sommes incarnés, nous vivons sur une terre. Ici c'est la terre de France, en Roumanie c'est la terre de Roumanie, en Russie c'est la terre de Russie. Et nous vivons au travers d'une culture, au travers d'une sensibilité, au travers d'une manière d'être. Et les saints locaux sont importants pour chacun d'entre nous, parce qu'ils témoignent de ce qu'ils ont pu vivre sur cette terre que nous connaissons, au travers de cette sensibilité que nous connaissons, de cette culture que nous connaissons. Et ils ont su apporter, au travers de tout cela, quelque chose de plus pour nous, parce que si ils sont reconnus par l'Église, c'est pour nous aider. Donc ils deviennent des lumières, des phares auxquels nous nous référons. Et nous pouvons nous inspirer, non pas les copier, parce que copier un saint ne sert à rien, et nous inspirer de ce qu'ils ont vécu, pour nous aussi, là où nous sommes, sur cette terre locale, eh bien, avancer sur le chemin de la sainteté. Et puis, nous pouvons aussi leur demander secours. Alors, bien sûr, on peut demander secours à tous les saints qui existent, et il ne faut pas s'en empêcher. Mais il est légitime que ceux qui nous sont les plus proches, qui ont connu notre vie, qui connaissent notre civilisation, eh bien, nous nous adressions à eux pour leur dire « Tu sais comment on vit ici, tu sais comment on souffre, tu sais comment on cherche à avancer, alors aide-moi, toi qui as pu avancer, toi qui as pu te sanctifier par la grâce du Seigneur au travers de ce que tu étais sur cette terre précise. » Et donc il y a un enrichissement, je dirais, local, qui est tout à fait légitime et nécessaire, ce qui n'empêche pas que nous pouvons prier un Serge de Radonège, une Sainte Parachève de Roumanie, un Saint Nectaire d'Égine. Tout ça est possible, bien évidemment.
Père Simeon, dans cette tradition, quelle est la place des pèlerinages comme pratique chrétienne?
Il y a une vingtaine d'années, s'établissait d'une manière organisée la fréquentation de pèlerinages interjuridictionnels sur cette terre de France, notamment sur le tombeau de Saint-Martin à Tours, ce qui a permis à de nombreux orthodoxes de se retrouver sur les reliques d'un saint qui a marqué la terre de France et bien au-delà de cette terre, un grand saint qui a donné un essor monastique conséquent. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de nous l'avoir fait connaître. À partir de ce pèlerinage, beaucoup d'autres se sont organisés, et tous les ans, il y a cette découverte progressive des saints locaux qui, par leur exemple, leurs épreuves et leur amour de Dieu, nous sont une référence. Bien avant l'organisation de ces pèlerinages, je voudrais noter qu'une de nos paroisses parisiennes, celle de Notre-Dame Joie des Affligés et Sainte-Geneviève, a été fondée autour du tombeau de Sainte-Geneviève, reconnue à juste titre par les fondateurs de cette communauté comme une sainte de l'Église indivise pouvant donner beaucoup à cette paroisse naissante. Le pèlerinage sur le tombeau de Sainte-Geneviève, offert à la vénération des orthodoxes, est certainement l'un des plus anciens du genre dans le sein de l'orthodoxie française. Beaucoup d'orthodoxes venus de l'émigration se réfèrent à juste titre au sein de leur terre. Par exemple, Saint-Serge de Radonège, Saint-Séraphime de Sarov, Saint-Jean de Kronstadt, Saint-Nectaire d'Égine, Saint-Éphrem, le Nouvel Apparu, Sainte-Parachève de Moldavie et encore beaucoup d'autres saints, de ces lieux qui ont nourri la vie spirituelle et qui ont nourri la tradition de la vie orthodoxe dans ces pays. Mais je voudrais dire aussi que nous avons sur cette terre de France des saints qui ont été des saints orthodoxes avant le schisme de 1054, qui ont contribué énormément à la vie spirituelle de l'Église. J'ai évoqué précédemment Saint-Martin de Tours, cet évêque qui, avant tout, était un vrai moine et qui a donné de lui-même tout ce qu'il pouvait pour que le monachisme en France et la vie spirituelle dans les paroisses, les communautés, les diocèses vivent et témoignent de l'amour de Dieu. Nous sommes en pleine orthodoxie avec Saint-Martin. Nous sommes en pleine orthodoxie avec Saint-Irénée de Lyon, qui est un véritable pont entre l'Orient et l'Occident, qui a combattu les hérésies, qui a laissé des textes superbes qui nous permettent de réfléchir sur ce qu'est l'Église. Saint-Jean Cassien à Marseille a donné aussi un élan monastique extrêmement important. Nous le savons, il est un transmetteur de la tradition orientale qu'il apporte en France et qu'il fait vivre autour de lui. Sainte-Geneviève de Paris, qui est en communication avec Saint-Siméon le Stylite, donne une coloration à la vie spirituelle du pays et qui jusqu'à nos jours témoigne d'une transmission de la grâce, de ce que Dieu veut nous donner, vers quoi Dieu veut nous entraîner. Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Germain de Paris, Saint-Denis de Paris, Saint-Hilaire de Poitiers, Sainte-Radegonde, Sainte-Clotilde et encore bien d'autres. Il en a des multitudes. Je ne peux pas lire la liste parce qu'elle serait trop conséquente, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que tous ces saints sont des saints orthodoxes, qu'à l'époque où ils vivaient, la terre de France était orthodoxe, et nous pouvons considérer légitimement que la foi orthodoxe n'est pas nouvelle venue en France. Elle est née bien avant nous, et nous devons en recevoir la tradition, au même titre que celle que nous recevons de l'Orient, du Nord et du Midi. C'est un travail qui est extrêmement important, qui a démarré depuis quelques dizaines d'années, et que nous devons prolonger, poursuivre, pour mieux vivre encore du témoignage de tous ces saints qui nous ont apporté énormément sur le plan spirituel, qui nous ont permis de vivre la spiritualité orthodoxe en France avant que ce malheureux schisme de 1054, dû à l'orgueil de l'homme, vienne provisoirement atteindre l'œuvre de Dieu.
C'est bien que dans cette œuvre de la transmission de la sainte tradition de l'Église, les monastères ont joué un rôle très important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les monastères orthodoxes en France aujourd'hui?
Eh bien voilà, il y avait jusqu'à présent trois monastères qui préexistaient, à savoir le monastère de Notre-Dame de toute protection, à Bussy-en-Othe, avec Mère Olga qui en est l'abbesse, et puis le monastère de Léna, qui est de l'obédience russe aux frontières, et le monastère de la Dalmerie, dont l'archimandrite Benoît en est le fondateur et le proto-igoumène. Il est intéressant de souligner que depuis une vingtaine d'années, on a pu assister à la création de près d'une vingtaine de lieux monastiques. Ceci me semble intéressant à souligner parce que la vie ecclésiale orthodoxe est très liée à la vie monastique. Dans les pays que nous connaissons, de Russie, de Grèce, de Roumanie, de Patriarcat d'Antioche, de Bulgarie et de Serbie, nous savons que la vie monastique est liée à la vie du diocèse et qu'il y a un lien très fort entre monastère et paroisse. Là, les fidèles peuvent se retrouver dans la prière, recevant ainsi l'expérience de ceux qui vivent dans ces lieux et qu'ils ont reçu eux-mêmes de leur père. Voici donc en France une nouvelle forme de transmission de la tradition et une nouvelle forme, je dirais, d'exercice de la vie spirituelle orthodoxe. Le lieu monastique n'est pas négligeable pour le devenir de notre Église. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que, à l'initiative de nos évêques, nous essayons d'avancer vers ce qui est l'idéal fonctionnel de notre vie chrétienne orthodoxe, à savoir une ecclésiologie bien en place, avec des diocèses géographiques, une ecclésiologie qui correspond à celle de nos pères. Et nous savons qu'actuellement, ce que nous vivons n'est pas en harmonie avec ce que nous proclamons. Il me semble que les monastères ont, dans l'humilité, un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui pour le grandissement de l'Église locale en France. Je ne fais d'ailleurs que reprendre ici une idée du métropolite Jérémie, émise lors d'une rencontre d'igoumènes qu'il présidait au monastère Notre-Dame de la Forie en 1991. Les lieux monastiques sont des terrains neutres, des terrains où l'essentiel est de chercher Dieu. La juridiction à laquelle nous appartenons est toujours importante, mais elle n'est pas première. Ce qui est premier, c'est la quête de Dieu. Et l'important n'est pas d'être orthodoxe ou d'être de tel ou tel patriarcat. L'important est de chercher Dieu, de toutes nos forces et de toutes nos énergies. J'ai la conviction profonde, personnellement, que c'est dans l'esprit orthodoxe, dans cette tradition reçue et vécue dans la spiritualité, que c'est là que je trouve Dieu. Et personne ne me fera une démonstration contraire, je suis certain de cela. Mais au demeurant, l'essentiel, pour les moines comme pour les fidèles, n'en demeure pas moins la quête de Dieu. Chacun de nos visiteurs expérimente ce que nous vivons, rencontrant dans nos hôtelleries des personnes, des fidèles qui appartiennent à d'autres églises. Dans tous les monastères, nous recevons des gens qui viennent de toutes les éparchies. Tout le monde se retrouve dans un climat de paix, de prière, dans une quête de l'essentiel. Nous devons être, humblement, comme le moule qui aide l'Église à se former. Nous devons, par notre accueil, par notre amour, par notre humilité, notre simplicité, témoigner de ce que nous sommes, unis autour du Christ. Ce que je viens d'évoquer ne veut pas dire que les autres entités ecclésiales n'ont pas à œuvrer, mais nous, nous avons probablement un rôle privilégié à jouer et dont nous devons nous sentir responsables. Les igoumènes des monastères, les pères et mères spirituelles doivent être attentifs à cela, à aider nos évêques, nos prêtres, nos fidèles, à vivre en communion plénière, selon les règles préétablies par nos pères. Véritablement, la vie monastique en France est plutôt le signe dans son évolution d'une bonne santé de l'Église orthodoxe. Je ne pense pas que l'on puisse vivre sans monastère dans une Église qui a vécu une tradition forte, une spiritualité expérimentée.
Cette transmission de la sainte tradition de l'Église, une importance particulière, ont aussi les instituts de théologie orthodoxe où sont formés les futurs prêtres de l'Église.
Bien évidemment, ce rôle est conséquent. Et nous savons que les différents instituts de théologie, et particulièrement en France, notre institut de théologie Saint-Serge, ont un rôle important à jouer. Je ne vais pas faire l'apologie des différents théologiens qui se sont succédés dans ce lieu. Tout le monde les connaît. Nous avons lu leurs écrits, nous avons été témoins de leur enseignement et de leur sagesse. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes qui ont enseigné et enseignent dans cet institut. Nous devons encourager ce travail, qui se fait déjà depuis plus de 70 ans, pour qu'il se poursuive avec la qualité qui lui revient, qui nous est chère, d'un enseignement profond, un enseignement qui est bien basé sur tout ce que nous ont livré nos pères, qui s'enrichit d'une réflexion moderne, ouverte. Les différents professeurs qui exercent dans cet institut nous apportent un grand souffle qui vient de l'esprit et que nous ne pouvons nier, que nous devons accueillir avec joie et encourager. Il faut que nous aidions cet institut à grandir par nos demandes, par notre soutien, par notre prière. Il faut que véritablement ceux et celles qui viennent s'éduquer, qui viennent recevoir toute cette tradition si riche, puissent non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'Église, recevoir ce trésor et le proposer à tous ceux qui les suivront. Je pense que nous devons rendre grâce pour tout ce que l'Église orthodoxe en France a réalisé. Il ne s'agit pas d'être triomphaliste, cela ne sert à rien. Mais soyons heureux de constater que notre Église vit. Elle est bien vivante, elle est bien dynamique. Elle suscite des chrétiens, des diacres, des prêtres, des évêques, des théologiens, des paroisses, des monastères. Ceci est un signe de vie. Ceci est signe de joie. Et nous ne pouvons que nous en réjouir et dire au Seigneur combien nous lui sommes reconnaissants.
Qu'est-ce que vous pensez sur l'avenir de l'orthodoxie en France?
Eh bien, le devenir de tout cela, dans l'avenir qui n'est jamais confortable parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Souvent on s'interroge, on a quelques idées, mais on a du mal à voir dans quel sens il faut avancer. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup. Parce que le monde se déchristianise, parce que le monde se centre sur lui-même. L'orgueil et l'égoïsme, qui sont les deux piliers de l'erreur de l'homme, sont bien là, toujours là. Et nous avons à œuvrer, nous avons à nous unir, l'Église est communion avant tout. Nous devons communier autour du Christ, tous ensemble, et chercher à œuvrer chacun à notre niveau. Aucun niveau n'est petit, aucun. Tous, évêques, prêtres, diacres, fidèles, femmes, hommes, enfants, tous nous devons œuvrer pour le grandissement de l'Église. Non pas dans une vision qui serait cléricale, mais tout simplement parce que le Christ est là, au milieu de nous, et qu'il nous dit « continuez ». Continuez l'œuvre que j'ai commencée au milieu de vous, avec mes apôtres et mes disciples. Poursuivez l'œuvre. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, vous qui connaissez déjà l'unité entre vous. Aimez-vous, vous qui ne la connaissez pas encore. Aimez-vous, vous qui êtes différents et qui cherchez le Seigneur. Soyez témoins de mon amour. Ce que le Seigneur nous demande fortement, c'est de prendre conscience de notre rôle. Encore une fois, chacun à notre niveau. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans l'Église. Nous devons être heureux de voir que des paroisses nouvelles se créent. Nous devons encourager toute nouvelle communauté, l'aider de toutes nos forces pour que grandisse la foi dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir lorsque d'autres lieux monastiques se créent. Plus nous serons nombreux, autant dans les paroisses que dans les monastères, plus nous saurons chercher avec force ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu veut que nous redistribuions à tous ceux qui nous entourent. On n'a jamais parlé autant, depuis quelques dizaines d'années, de sectes, de mouvements qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui bafouent l'homme, qui le réduisent au rang d'esclave. Et nous, chrétiens orthodoxes, que faisons-nous pendant ce temps? Que faisons-nous? Ne devons-nous pas nous réveiller, avoir une conscience vive de notre activité pastorale? Ce n'est pas uniquement le travail des prêtres et des évêques, c'est le travail de tous, en union, en communion. Pour cela, il y a certainement beaucoup de choses à faire, dans l'amour, dans la vérité, avec la grâce de Dieu qui nous viendra par la prière. Susciter des vocations. Et là, je m'adresse particulièrement aux évêques, aux prêtres, aux responsables de paroisse, aux recteurs et aux fidèles. Faites attention, nous avons besoin d'un clergé vif, dynamique. Nous avons besoin de prêtres et de diacres et de moines. Nous avons besoin de responsables laïcs, de maîtres de chœur, d'iconographes, de catéchètes. Nous avons besoin aussi de ceux qui, humblement, aident au service de l'Église sans être connus, dans des tâches secondaires, en apparence, mais qui, aux yeux de Dieu, sont aussi grandes que les plus grandes. Notre travail aujourd'hui est de prier d'abord, de supplier Dieu, de nous aider à discerner la place de chacun. Il nous faut trouver des prêtres, de jeunes prêtres, des êtres qui ont le désir de Dieu, le désir de l'amour de l'Église. Bannissons bien sûr tout ce qui a un caractère de pouvoir, tout ce qui relève du carriérisme, qui est nuisible à l'Église et qui est un péché gravissime. Mais si on nous propose de devenir prêtre, diacre, sous-diacre, lecteur, chantre, iconographe, catéchète et autres, sachons répondre oui avec générosité. La générosité de l'homme aujourd'hui n'est pas sa qualité première. L'ego l'emporte. Personne ne veut s'engager. C'est le drame de notre société. On ne veut pas s'engager dans le mariage, on ne veut pas s'engager dans le sacerdoce, on ne veut pas s'engager dans le monachisme, on ne veut pas s'engager dans l'épiscopat ou dans la prêtrise, dans le diaconat. On a peur. Et la peur vient du diable. Elle ne vient pas de Dieu. La peur doit être bannie. Si nous avons peur, mettons-nous en face du Seigneur et prions-le intensément. Seigneur, si tu veux, donne-moi la force de perdre ma vie aux yeux du monde. Soyons généreux, ayons des cœurs ouverts. Malgré les douleurs, malgré les souffrances qui accompagnent chaque engagement, le Christ est là et il nous dit « Ne craignez rien, je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. » Ce que j'aimerais dire à chacun d'entre vous et me dire aussi à moi, c'est que nous devons avoir une grande confiance dans le Seigneur qui nous aime, qui veut que nous vivions, que nous grandissions, que nous soyons en communion les uns avec les autres, que peu à peu l'Église locale émerge, qu'elle ne reste pas dans cet état de stagnation nuisible. Il nous faut oser collaborer avec le Saint-Esprit pour la construire. Soyons attentifs à cela. Encourageons-nous les uns les autres. Entraînons-nous les uns les autres. Je pense à nos évêques que nous aimons tant, qui font du réel travail, qui sont, malgré eux, débordés d'activité, fatigués, souvent bien isolés, quelquefois mal compris. Nous devons les porter dans la prière d'abord. Nous avons dans chaque liturgie, dans chaque office, à citer nos évêques. Faisons-le non pas avec les lèvres, mais avec le cœur. Déposons-les au pied de l'autel devant le Seigneur pour que lui leur donne force, grâce et courage. Et puis, peut-être devons-nous insister pour qu'ils œuvrent dans un climat plus simple, plus pastoral, moins administratif. Je dois dire que je suis quelquefois effrayé quand je vois la tâche de certains de nos évêques, quand je vois l'ampleur de leur diocèse. Comment cela peut-il se faire? Nous devons susciter d'autres vocations sacerdotales. Plus il y aura de prêtres, de diacres, mieux l'Église fonctionnera. Elle entraînera plus de fidèles qui eux aussi œuvreront et donneront une ampleur à l'Église. Non pas pour être nombreux, le nombre ne nous intéresse pas. Un de mes meilleurs amis, le père Pierre Tchesnakov, disait il y a quelques années à quelques chrétiens orthodoxes qui étaient inquiets de leur petit nombre, « Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. » Mais il rajoutait, « Si on met trop de sel dans la soupe, elle n'est pas bonne. » Avec humour, il savait nous dire que ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Au demeurant, il me semble que nos évêques, peut-être aidés par quelques consultants, devraient poursuivre leurs réflexions sur le fonctionnement de notre Église, à partager leurs tâches et à faire que l'ecclésiologie orthodoxe que nous aimons tant soit une réalité et non pas une image pieuse. Tout ce qui a été fait est bien, mais nous devons avancer. Nous devons nous encourager mutuellement, les uns les autres, nous soutenir, éviter la critique, cette critique qui tue l'homme et qui blesse Dieu. Voir les bonnes choses qui se font en chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui existe sur cette terre qui ne soit pas le reflet de la beauté de Dieu. C'est cela que nous devons développer, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi chez ceux qui nous entourent, trouver les charismes. Encore une fois, je suis personnellement persuadé que nos diocèses ne sont pas viables. Il serait bon de supprimer la superposition des juridictions au profit d'un établissement d'évêchés limité géographiquement et n'ayant qu'un seul évêque à leur tête. Je voudrais encourager nos évêques à ne pas laisser nos prêtres seuls dans les paroisses de province. Ils sont souvent, et j'en suis le témoin, très seuls, désemparés, ne savent plus quoi faire. Il faut qu'ils soient soutenus. Il faut que nos évêques retrouvent le sens du diaconat, ce sens profond qui est à la fois un service de l'autel et un service de la table. La table, c'est le lieu où l'on partage le repas, c'est le lieu où les pauvres sont rassasiés, c'est le lieu où ceux et celles qui souffrent sont consolés. Le rôle du diacre est primordial aujourd'hui. Nous devons retrouver ce service et ne pas le cantonner au seul service divin. Le diacre est un homme de prière, il doit célébrer l'Eucharistie et les offices, et il doit, au-delà de cet exercice nécessaire, témoigner de l'amour de Dieu à tous les hommes de bonne volonté. Suscitons des prêtres, suscitons des diacres, n'ayons pas peur. Et vous, les fidèles, je vous renvoie à vous-même. Combien de fois j'ai entendu des laïcs dire « Non, je ne veux pas devenir diacre. Non, je ne veux pas devenir prêtre, parce que encore. » Quelles sont ces raisons? La plupart du temps, elles sont négatives. Elles ne viennent pas du cœur. Elles viennent du démon qui nous souffle à l'oreille. Tu vas perdre ton temps, tu vas te fatiguer, tu n'es pas capable. Eh bien, si le peuple de Dieu vous désigne, vous devez accepter. Parce que le Seigneur nous le dit par toute sa vie. À Gethsémani, il a peur, il est tenté. Le démon revient comme pendant les 40 jours du désert. Le Seigneur est tellement dans la souffrance qu'il saigne une sueur de sang, mais il dira cette phrase qui nous sauve tous, « Mais Père, que ta volonté soit faite ». Ayons le courage, nous aussi, de dire « Père, que ta volonté soit faite ». Vivons dans l'amour. L'Église est communion d'amour, elle n'est rien d'autre. Elle n'est pas une institution, dans le sens où nous entendons institution politique, institution sociale. Non, l'Église n'est pas là. L'Église est don, communion d'amour autour de son Seigneur, avec son Seigneur et dans la mouvance de l'Esprit-Saint. C'est dans cet esprit que nous devons avancer. Je nous souhaite à tous de continuer de croître profondément par le travail de Dieu, aussi par notre réponse à la grâce qui nous est proposée. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous aide à grandir avec nos frères, quels qu'ils soient, quelle que soit leur place dans l'Église, qui sont toutes bénies. Et que nous avancions ainsi témoignant de l'amour de Dieu aux hommes. C'est cela dont le monde a besoin. Que l'on nous voit comme on voyait les premiers chrétiens s'aimer, et que l'on puisse dire de nous aussi, voyez comme ils s'aiment. Est-ce que cela est possible? Eh bien, je vais vous répondre oui, totalement possible, à cause de Dieu, à cause de Jésus, Christ, Sauveur et Rédempteur, à cause de l'Esprit qui nous donne vie, qui donne le dynamisme à chacun d'entre nous et à l'Église. Tout cela est possible, mais croyons-le, et vivons de notre foi, de notre adhésion à la personne du Christ, qui est venu au milieu de nous pour nous dire que nous étions aimés, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. N'ayons pas peur, l'Église existe, l'Église avance, l'Église grandit. Le christianisme ne fait que commencer, comme l'a dit le père Alexandre Maine, dans le sens où tous les jours, il faut poursuivre notre collaboration à l'œuvre de Dieu.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui.
Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors et par la chorale de la paroisse orthodoxe francophone Saint-Germain et Saint-Cloud de Louveciennes.